Bonjour à vous, mes bien-aimés. J'ai allumé mon micro dans ma poche. Vous voyez que j'ai un petit peu de difficulté. Voilà, on. C'est bon, ça ? Voilà. Je suis un peu handicapé aujourd'hui parce que je me suis fait opérer de la cataracte cette semaine. Et je vois très difficilement. Et c'est un petit peu embêtant pour un prédicateur de ne pas savoir voir. Donc je ne sais même pas si je dois mettre mes lunettes ou pas, puisque ma vue est justement en train de changer. Et puis il y a un œil qui a été opéré mardi passé et l'autre œil qui a été opéré mardi d'avant. Donc les deux yeux sont pour l'instant en train de se chercher dans mon cerveau. Et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai prié le Seigneur en disant j'ai du mal à lire et je dois prêcher. J'ai donc choisi, avec l'aide du Seigneur, un message que j'ai déjà prêché plusieurs fois, même deux fois chez nous à Carnière, je crois, et plusieurs fois lors de mes visites, et peut-être même ici. Mais c'est un message que j'aurai facile à vous donner et j'espère que le Seigneur pourra toucher vos cœurs. On va prier, si vous voulez bien. Seigneur, merci pour le culte de ce matin, pour la louange, pour nos cœurs qui débordent de joie pour te dire combien, Seigneur, nous t'apprécions, combien nous t'aimons, combien nous désirons te dire ce merci avec un M majuscule pour ton œuvre à la croix, pour ta venue sur la terre, pour ton plan d'amour préparé dès avant la fondation du monde pour chacun d'entre nous ici. Et pour dire ensemble merci. Nous te demandons maintenant, Seigneur, de bien vouloir tout d'abord ouvrir nos cœurs à ta parole, qu'elle puisse nous faire du bien, qu'elle puisse nous réformer, qu'elle puisse changer nos vies, qu'elle puisse avoir un impact dans nos cœurs. Je te prie de m'aider également pour pouvoir apporter le message de ta part. Seigneur, on compte sur toi, tu es notre Dieu. Et nous voulons encore dire ensemble, Seigneur, que nous t'aimons. Au nom de Jésus. Amen. J'ai tout de même pris quelques notes que j'essaierai tout de même de pouvoir me débrouiller. Mais est-ce que je peux demander à deux personnes de bien vouloir lire le texte biblique, ceux qui ont une Bible? Le premier texte, c'est dans 2 Rois 6. Versets 1 à 7. Et si une deuxième personne veut bien lire Jean 13, de 5 à 10. 2 Rois 6, 1 à 7. Et Jean 13, 5 à 10. Peut-être devant le micro, peut-être pour les gens qui nous regarderont après. Non. Le texte principal, c'est 2 Rois 6, mais c'est toi qui vas lire les deux. Allez, vas-y, Ruben. Mon homonyme. Vas-y, Ruben.
Les membres de la communauté de prophètes dirent à Élisée, « L'endroit où nous nous tenons assis devant toi est trop petit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons chacun une poutre et nous y ferons un lieu de réunion. » Élisée répondit, « Allez-y. » L'un d'eux dit, « Accepte de venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « Je vais venir. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Alors que l'un d'eux abattait une poutre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, je l'avais emprunté. » L'homme de Dieu demanda, « Où est-il tombé ?» Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit ainsi surnager le fer. Puis il dit, « Prends-le. » Il tendit la main et le prit.
Merci.
13, c'est 5 à 10 ?
Jean 13, 5 à 10.
Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à essuyer avec de linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. »
Merci. Et un troisième verset que je connais par cœur, c'est 1 Jean 1, 9. « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Voilà les trois versets, les trois passages qui serviront de base pour notre réflexion ce matin. Nous revenons à notre petit passage de l'Ancien Testament. Il s'agit quelque part du prophète Élisée qui enseigne dans une sorte d'institut biblique, je dirais, puisqu'il y avait là les fils des prophètes qui étaient réunis. C'était une école de disciples, probablement à Jéricho. Et le texte nous dit qu'ils se réunissaient avec Élisée et qu'ils étaient assis devant lui, donc comme vous, quelque part, devant moi. Donc c'est bien la preuve que c'était un endroit où Élisée enseignait probablement des plus jeunes pour le ministère. En tout cas, il enseignait les fils des prophètes. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que cette salle devient trop petite. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour une salle de réunion. Quand elle devient trop petite, ça veut dire que voilà, le groupe s'agrandit. Et voilà, les élèves augmentent et il y a un des élèves ou plusieurs qui disent « Fabriquons une nouvelle salle. On est trop petit ici. » Et on va chacun aller dans la nature, on va chacun se choisir un arbre et on va couper dans cet arbre pour faire des nouvelles poutres. Chacun va donc fonctionner pour servir dans l'œuvre de Dieu pour construire un nouveau bâtiment. Peut-être pas, c'était peut-être une cabane, on n'en sait rien. Toujours est-il que c'était un endroit où Élisée enseignait. Mais c'est une belle initiative, un projet magnifique, une idée constructive dans les deux sens du terme. Et puis, il propose le projet à Élisée, et Élisée, enthousiaste, dit « Allez-y !» Et tout ça commence très bien. Et c'est beau quand les responsables prennent les projets des jeunes à cœur et les encouragent à servir pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Tout ça est très beau. Et ces étudiants disent à Élisée, « Est-ce que tu accepterais de venir avec nous ?» Non seulement ils soumettent leur projet à Élisée, mais ils l'associent à l'élaboration des travaux. Quelque part, il lui demande de les coacher, de les surveiller, de les encadrer. Et ils se mettent au travail. Chacun choisit un arbre et chacun, comme ça, sert le Seigneur dans son œuvre avec Élisée comme prophète et comme coach et l'homme de Dieu à leur côté. Et commence là alors un dur labeur plein de zèle pour l'œuvre du Seigneur. Le texte nous dit que l'un d'eux a choisi un arbre près du Jourdain. Et quelque part, c'est une bonne initiative. Il a choisi un arbre en disant probablement que cet arbre-là doit être bien costaud, puisqu'il n'est pas loin du Jourdain, il puise ses racines dans l'eau, et moi je vais choisir cet arbre. C'est une très très bonne initiative. Et voilà qu'il commence à couper cet arbre avec une hache, et en plein milieu de son effort, voilà que la cognée de sa hache se détache et tombe dans l'eau. Trouble du Jourdain. Mais ce n'est pas tout. Non seulement sa tâche était interrompue, mais sa hache était empruntée. Et il n'y avait pas de bricot dans le coin, me semble-t-il, pour aller en chercher une autre ou en acheter une autre. À l'époque, on peut imaginer que le fer était rare et cher, que la hache était un outil précieux, que les prophètes étudiants étaient pauvres, c'était donc quelque chose qui aurait été difficile à rembourser. Peut-être aurait dû travailler peut-être gratuitement pendant des mois pour rembourser ce prêteur et peut-être que le prêteur pourrait même réclamer l'argent et pourquoi pas le mettre en prison. On va un petit peu loin. C'est pour ça qu'il crie « Ah, mon Seigneur !» Peut-être s'adressait-il à l'homme de Dieu. En tout cas, Élisée a entendu ce cri. Et il vient voir et il s'intéresse au problème de ce jeune et va intervenir. Et examinons un petit peu ce qui se passe quand Élisée intervient. Le texte nous dit que Élisée va prendre un nouveau morceau de bois et qu'il va le tailler pour faire un manche. Puis il demande au jeune homme « Où est tombé la cognée ?» Et le jeune disciple montre l'endroit où est tombé dans la rivière, ce morceau de fer. Et Élisée jette ce morceau de bois, à l'endroit où est tombé le fer, et miracle, ce bois va exactement dans la cognée, et la hache flotte. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire flotter une hache dans votre baignoire, ça ne flotte pas. Donc, c'est vraiment un miracle retentissant. Et on pourrait quelque part conclure cette belle histoire en disant, eh bien, si nous prions, Dieu peut intervenir miraculeusement dans la vie de ses enfants et faire des miracles. Mais ce serait dommage, je crois, d'en rester là. Parce qu'il y a certainement plus à nous apprendre dans ce passage. Tout d'abord, il s'agit de jeunes gens qui sont là en train d'apprendre, de se former avec l'apôtre, avec le prophète Élisée. Et je voudrais m'adresser aux jeunes ce matin en particulier. Est-ce que tu as vu ces jeunes-là qui sont assis au pied d'Élisée? As-tu déjà réfléchi à un métier? Est-ce que tu as déjà réfléchi à te former en vue de servir le Seigneur? Vous savez, le service du Seigneur, ce n'est pas spécialement pasteur ou responsable d'église. Ici, les jeunes, ils ont fait un travail tout à fait manuel qui était bien encadré pour l'œuvre du Seigneur. Est-ce que Toi, jeune, est-ce que tu as déjà pensé à te former à une école de disciples? Jésus ne t'a-t-il jamais interpellé quand il dit « la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers ». Beaucoup de tes amis, beaucoup de personnes dans nos villes ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Il y a des écoles bibliques, il y a des facultés, il y a des cours par correspondance, il y a des études bibliques de l'Église. Toi, jeune, est-ce que tu participes à ces études bibliques? Il y a, à Genneval, les APEB organisent chaque année un CFB, cours de formation biblique. Cette année-ci, il a dû être annulé, malheureusement, à cause des circonstances. Mais il y a là, par exemple, un beau camp qui dure 4 jours. Il y a, je vous avertis à l'avance, il y a 5 réunions par jour. C'est un camp d'études bibliques, une mini-formation donnée par des professeurs qui viennent de France, qui viennent et qui donnent cours à l'Institut biblique de Genève. Voilà, plein de possibilités de se former. Est-ce que tu as déjà pensé à te former pour servir le Seigneur? Paul dit « Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ?» Et comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Servir le Seigneur, c'est le plus beau des métiers. C'est dommage qu'on le comprend souvent quand on est vieux. Bien-aimés, prions pour nos jeunes, pour qu'ils se lèvent, pour qu'ils se forment, pour qu'ils deviennent des serviteurs de Dieu là où le Seigneur les a appelés. Il y a plein de services qu'on peut faire pour le Seigneur. Et de belles expériences l'attendront sur le chemin. Mais il y a peut-être une leçon aussi pour nous, adultes ou personnes plus âgées, membres de l'Église, chrétiens, engagés. Et peut-être nous pouvons nous identifier à ce jeune homme, à l'expérience de ce jeune homme. Et comme lui, tu as peut-être pris un jour de bonnes résolutions pour le Seigneur. Peut-être as-tu pris une activité dans l'Église. Peut-être tu t'es engagé à témoigner autour de toi. Peut-être tu avais prié que le Seigneur t'accompagne dans tes résolutions et tout avait bien commencé. Mais voilà, comme ce jeune homme, tu as été interrompu dans ta tâche. Quelque chose s'est passé. Comme lui, tu as perdu, quelque part, la cognée de ta hache. Tu as perdu le tranchant de ton outil. Tu as perdu le tranchant du Saint-Esprit. Tu as perdu l'efficacité et la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Pourquoi ? C'est toujours, toujours le péché, dans une forme ou dans l'autre, qui est la cause, qui en est la cause. C'est à cause de lui qu'on est interrompu dans sa tâche. C'est à cause de lui qu'il n'y a plus cette efficacité dans le travail, qu'il n'y a plus le zèle, que la relation avec le Seigneur est dégradée, mise à mal. On a l'impression que la communion avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, est rompue. Que se passe-t-il quand nous tombons, quand nous fautons, quand nous péchons? Eh bien, on pourrait continuer à frapper l'arbre sans tranchant. Et on fait semblant. On se fatigue. On se décourage. Et on abîme l'arbre. Et on peut continuer longtemps comme cela. Et ça, quelquefois, nous mène à dire « Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai pourtant bien commencé. J'avais pris des bonnes résolutions. J'étais plein d'ardeur pour le Seigneur, mais on a perdu quelque chose d'important, le tranchant de son outil. Et on a perdu la communion avec le Seigneur. Et on est interrompu dans sa tâche. Dans sa première épître de Jean, il nous parle justement de cette communion avec le Seigneur. Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec le Seigneur et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. C'est-à-dire que nos actes et nos paroles constituent un mensonge. Et Jean continue, si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et nous vivons dans l'illusion et la vérité n'est pas en nous. Et au verset 10 de sa première épître, au chapitre 1, il dit « Nous contredisons la parole de Dieu et nous traitons Dieu de menteur. » En fait, Jean nous explique qu'à cause du péché, la communion du Saint-Esprit est rompue, interrompue. Ce n'est pas que le Saint-Esprit se retire de nous, non, mais il reste silencieux, en attente d'une attitude de notre part. Un jour, un prédicateur à Carnières nous a expliqué sa façon de voir comment perdre cette communion avec le Saint-Esprit. Quand nous sommes en communion avec lui, nous sommes, si vous voulez, en dialogue avec lui. Nous lisons la parole, elle nous fait du bien. Dans notre prière, nous dialoguons avec le Seigneur, même si nous ne l'entendons pas avec notre oreille. Mais il est là, à côté de nous. Le Saint-Esprit nous a été donné, c'est un cadeau magnifique. C'est la troisième personne de la divinité qui vient en nous lors de la nouvelle naissance. C'est un cadeau extraordinaire. Mais à cause du péché, nous ne perdons pas le Saint-Esprit, mais il recule d'un pas. Voilà, il recule d'un pas. Et on a l'impression que ça ne va plus. On n'a plus envie. On a perdu ce zèle. Ce jeune homme a-t-il continué à frapper sans le faire de sa hache, pour montrer devant les autres qu'il était toujours bien à l'œuvre, mais ses amis n'auraient pas été dupes très longtemps. S'est-il enfoui ? A-t-il continué à frapper comme si rien n'était ? Non. Il a eu le bon réflexe. Le texte nous dit « Ah, mon Seigneur !» Il a crié à Dieu. Bon, c'est Élisée qui est venu. Mais Élisée était le prophète de Dieu. Il était l'envoyé de Dieu. Mais la prière, est-ce suffisant ? Pas toujours. Pourquoi ? Parce que Élisée n'a... Voyons un petit peu comment Élisée s'est arrangé pour rétablir ce jeune homme dans son travail. Tout d'abord, ce texte, il n'est pas long, et pourtant, chaque phrase, chaque mot est intéressant à noter. Élisée lui a demandé la première question, « Où est-il tombé ?» Le Seigneur nous dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ici, le jeune homme a dû montrer à Élisée où il était tombé, où était tombé le tranchant de sa hache. Et dans ce texte de Jean qui nous dit, si nous confessons nos péchés, c'est le texte correspondant, si vous voulez, au Nouveau Testament, à la Nouvelle Alliance, où le Seigneur ne nous demande pas seulement de demander pardon, parce que vous savez comme moi que quand nous nous donnons au Seigneur, quand on est de nouveau, le sang de Christ nous purifie de tout péché. Ça veut dire que les péchés passés, les péchés présents, les péchés futurs, sont pardonnés. Si quelqu'un doute de ça, il a tort. Parce que le sang de Jésus purifie tous nos péchés. Mais que se passe-t-il quand nous péchons? Parce que nous continuons à pécher. Avec l'aide du Saint-Esprit qui va nous faire entrer dans un chemin de sanctification, nous allons régler des problèmes dans notre vie. Et il y a des péchés qui vont, avec l'aide du Seigneur, que nous allons abandonner. Il y a des mauvaises habitudes, il y a peut-être des addictions, peut-être des choses de notre caractère qui vont changer. Mais quand nous tombons et que la communion est rompue, qu'est-ce que la Bible nous demande? Où est tombé le fer? Où es-tu tombé? Confesse ton péché. Mets ton doigt sur le péché. Dis au Seigneur ce que tu as fait. Pas simplement, Seigneur, je te demande pardon pour tout. Quand le Saint-Esprit nous montre où nous sommes tombés, il demande que nous le confessions, que nous le disions. Ce n'est pas la même chose que de demander pardon. C'est quelque chose de plus, parce que le Seigneur nous demande de revenir là où nous sommes tombés. C'était la première leçon. Et puis, que se passe-t-il? Élisée a confectionné un nouveau bois. Pourquoi Élisée n'a-t-il pas pris le manche que ce jeune homme avait en main? Élisée a confectionné un nouveau bois parce qu'il ne veut pas utiliser notre manche, le manche de nos propres efforts, le manche de notre expérience que nous avons acquis dans notre vie de chrétien, le manche de notre orgueil, le manche de notre sagesse. Il y a un autre bois. Et cet autre bois va être jeté à l'endroit où le fer de lance, le fer est tombé. Et cet autre bois, ce n'est rien d'autre que la croix de Jésus. Ce n'est pas avec nos propres efforts que nous devons revenir, avec notre propre manche, que nous devons revenir à l'endroit où nous sommes tombés. C'est avec la croix du Seigneur. C'est-à-dire que c'est au pied du Seigneur que nous avons à déposer l'endroit où nous sommes tombés. Et quand ça se passe, il y a le miracle. La hache qui est rentrée dans ce fer, dans l'eau trouble, on ne peut pas expliquer. Cette hache qui flotte, on ne peut pas expliquer. Eh bien, le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, on ne peut pas l'expliquer. C'est un cadeau ineffable du Seigneur. La croix efface tous nos péchés. Mais c'est là que nous avons à revenir. Le bois de la croix opère un miracle et fait surnager le fer. La Bible dit « Le sang de Christ nous purifie de tout péché. » J'ai fait lire tout à l'heure l'épisode du lavage des pieds des disciples. Et j'ai choisi ces cinq versets où Pierre dit quelque part, « Mais Seigneur, si tu me laves les pieds, lave mon corps tout entier. » Et Jésus lui répond, « Non, tu n'as pas besoin d'être lavé tout entier, tu es déjà pur. Et tu comprendras plus tard ça. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nous nous tournons vers le Seigneur, comme je le disais il y a quelques instants, le Seigneur nous purifie entièrement, il pardonne tous nos péchés. Mais dans notre route, et c'était le cas avec les disciples marchaient soit à pieds nus avec des sandales, vous savez que là-bas, Salvatore qui y va souvent pourrait mieux le dire que moi, parce que moi je n'ai jamais été, il y a partout de la poussière. Et quand on marche, surtout à l'époque, dans la poussière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nos pieds qui transpirent, etc., ramassent cette poussière et on a besoin de nous laver les pieds régulièrement. C'est un petit peu ce qui se passe, mais ce n'était pas nécessaire que Pierre soit lavé entièrement par Jésus, parce qu'il était déjà lavé. Mais dans notre course, dans notre marche de tous les jours, il nous arrive d'avoir les pieds sales. Et alors le Seigneur a besoin de les laver. Et c'est au pied de la croix que le Seigneur va venir laver nos manquements, l'endroit où le péché que nous allons lui dire, que nous allons lui montrer. Et c'est là la magnifique efficacité de la croix. Le Seigneur Jésus vient lui-même se proposer de laver les pieds de ses disciples. Et comme le père du fils prodigue attend et scrute l'horizon pour voir venir son fils repentant, le Seigneur nous attend également pour que nous puissions venir repentant vers lui. Je termine par deux versets que j'ai tirés de l'Ancien Testament. Je les ai écrits en grand pour que je puisse vous les lire. C'est dans le livre de Néhémie, chapitre 9, verset 17, où on voit, malgré tout, dans l'Ancienne Alliance, la grâce du Seigneur. Il est dit, « Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonneras pas. » Le Seigneur est toujours prêt à nous accueillir quand nous nous repentons et que nous venons au pied de la croix confessant notre péché. Et un deuxième passage, Ésaïe 55, verset 7, « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Seigneur, tu es un grand Dieu. Nous sommes tous là, Seigneur, avec quelquefois nos pieds sales, parce que nous restons imparfaits, Seigneur. Nous restons, quelquefois dépendants. Et notre vieil homme, notre vieille nature a quelquefois le dessus sur notre homme nouveau. Et on te demande pardon. Mais comme il est bon et rassurant, comme cette paix nous envahit de savoir que tu ne te lasses pas de pardonner. Et tout cela à cause de ton plan d'amour pour l'humanité, à cause du sacrifice du Seigneur Jésus à la croix. Et plus que jamais, Seigneur, nous désirons te louer et t'adorer pour ce plan qui passe par la croix, qui est le point central de l'histoire de l'humanité et qui, chacun d'entre nous, nous avons compris combien cette croix peut faire des miracles. Et merci pour le miracle du pardon. Merci pour le miracle de la grâce. Merci pour les leçons de ta parole, Seigneur. Aide-nous à retourner là où nous sommes tombés et nous mettre en règle avec toi afin que nous puissions, si c'est le cas, nous remettre à travailler pour toi. Nous avons quelquefois besoin, Seigneur, d'être encouragés, d'être fortifiés, d'être ramenés dans le droit chemin. C'est peut-être probablement le cas pour personne aujourd'hui, et on t'en loue, mais s'il y a quelqu'un dans cette salle ou dans ceux qui nous regardent, qui se sentent touchés par ce message de grâce, Seigneur. Merci parce que tu veux leur faire du bien. Tu veux les rétablir dans l'engagement qu'ils ont pris pour toi. Et Seigneur, ça m'arrive souvent à moi aussi, j'en ai besoin. Et je te loue parce que tu es un Dieu de grâce, de miséricorde. Et que tu ne te lasses pas de pardonner mes péchés. Amen.